Alors, je remercie tout d'abord le banquet du livre pour cette invitation, Dominique, Colette et Michel, ainsi que toute l'équipe pour leur accueil très chaleureux. Et je vous remercie de votre présence. En tant qu'écrivain, je ne suis pas habitué à donner ce qu'on appelle une conférence. Aussi, je vous lirai mon intervention en tâchant d'y mettre le ton et les formes qui conviennent. Je vais donc vous parler du soulèvement de l'homme ordinaire. La démocratie est triviale et sans mystère. Elle fait le lit politique de toute fortune, de toute providence, de toute aura. On parle, on délibère. Les formes de la décision y sont simples et austères. On compte, le nombre tranche. Plus la démocratie est d'un usage spontané et ouvert, direct aussi, plus elle comporterait cette part d'ennui, de déception. C'est cela sans doute qu'on pourrait à bon droit nommer une institution séculière. En revanche, la démocratie représentative, résumant tout dans quelques hommes, conserve, bon an mal an, un enivrement de modeste dosage, mais de vaste ampleur. Elle fabrique ce que Lissagaray nommait les grands lamas démocratiques. Un des sujets de méfiance contre le comité central de la garde nationale, qui de fait dirigea Paris à l'aube de la Commune de 1871, fut que ses membres étaient des inconnus. Il n'y a pourtant rien de plus émouvant que ces proclamations, ces décrets, signés par des noms inconnus. Audoineau, Arnold, Andigno, Assis, Avoine-Fils, Babic, Barrault, Bergeret, Boursier, Goubier, Grélier, Grolard, Jourde, Maljournal. Ces gens-là ont réellement vécu. L'ordre alphabétique est pour leur nom le seul qui vaille. C'était, au dire des historiens, des nouveaux venus sans passé ni carrière. Ils sont les anonymes qu'évoquait Patrick Boucheron l'autre jour. Et pour reprendre son expression, ils sont une force qui se lève dans le dos du pouvoir. Le 19 mars au matin, après le coup de force manqué de Thiers, qui voulait reprendre à Paris ses canons, le comité central se réunit à 8h30 sous la présidence d'Édouard Moreau. On changeait de président à chaque séance. Qui était Édouard Moreau, un commissionnaire en marchandises? On annonce au comité central une grande réunion des maires et des députés de la Seine à la mairie du 3e. Le comité décide d'y envoyer 4 délégués afin de tenter de les associer à l'élection de la commune. Varlin, Moreau, Jourde, Arnold. Varlin était un artisan relieur. Moreau, un petit marchand. Jourde, un employé des ponts et chaussées. Arnold, un architecte. Aucun n'avait jamais exercé de mandat. Maintenant, prenons les 4 hommes qui leur font face et choisissons-les parmi les plus à gauche. Louis Blanc avait 60 ans. Il était fils d'un haut fonctionnaire impérial. Il avait été journaliste et déjà membre d'un gouvernement. Clémenceau avait 30 ans. Il était issu de la bourgeoisie de province. Il était médecin, journaliste. Schœlcher avait 66 ans. Il était fils de bourgeois parisien. Il avait été journaliste, sous-secrétaire d'État et député. Peyra avait 58 ans. Il avait été brillant élève au séminaire et à l'école de droit. Il était un journaliste célèbre. Voyons maintenant de nouveau les commissaires. Varlin, 31 ans. Jourde, 27 ans. Moreau avait on ne sait quel âge. Arnold, 33 ans. Varlin était fils de paysans pauvres. Quant aux autres, j'ignore tout de leur situation. Et voici donc que ces 4 hommes, mandatés par Paris, à qui l'on demande de céder la place aux députés et aux maires, aux gens sérieux, qualifiés, qui seraient les seuls capables d'obtenir, dit-on, les revendications réclamées au principal, la République, refusent. Et lorsqu'on leur oppose à ces 4 hommes que leur élection aurait dû être décrétée par l'Assemblée nationale, ils répondent « Le peuple a le droit de se convoquer lui-même, c'est un droit inaliénable dont il a fait usage plusieurs fois dans notre histoire au jour de grands périls. » C'est ce qu'on appelle une réponse de grand style. Pourtant, personne ne la signe, elle est, si l'on veut, sans auteur. Mais cette démocratie de l'homme quelconque, sans nom, sans signature, si l'on préfère, anonyme, qui peut être n'importe qui, mais un n'importe qui concret, pas le sujet de droit ou le citoyen, cette démocratie de l'homme ordinaire n'adopte pas toujours cette hauteur de ton. Il est un point indiscutable qui relèverait de l'expérience la plus commune et qui, pour cette raison, peut-être, retiendrait peu l'attention. Ce point n'est pourtant pas un point de détail, puisqu'il affecte toutes les péripéties démocratiques, y compris les grandes phases ardentes. Ce point, c'est que la démocratie spontanée, directe, celle de Jourde, de Varlin et d'Arnold, le vrai partage de parole et la vraie prise en commun des décisions serait une chose laborieuse, ennuyeuse même. En un mot, la démocratie, c'est chiant. Pour adopter de nouveau les formes qui conviennent, une inertie pratique affecte le groupe. Tant que l'on n'est pas dans une structure figée et que les représentants ont un mandat éphémère, le groupe délibérant est de faible unité synthétique. Même dans les moments de haute température historique, selon l'expression de Jaurès, l'être ensemble n'est jamais tout à fait arraché à l'éparpillement du multiple. On y trouve à la fois une surabondance de vie personnelle et en même temps la première poussée de vie collective. Mais cette vie collective ne laisse alors souvent s'exprimer de la vie personnelle que le plus répétitif, le plus mimétique et en somme le moins vivant. Les discussions s'y font à bâtons rompus et sont interminables, sans organisation, imprécises. Et elles ne semblent devoir traiter des problèmes que d'une manière incomplète, inefficace. Ainsi, il est à gager que même le conseil de la Commune de Paris dut parfois ressembler à une réunion de quartier, ou pire, à une assemblée de copropriétaires. On y parlait à tort et à travers, de façon décousue, se disputant pour rien, dépensant son énergie à des délibérations inutiles. Pourtant, tout cela est l'indice d'un changement décisif, une politique horizontale, sans héros, sans destin. C'est la constitution d'un nouveau sujet politique, le multiple, en voie d'unification. On le retrouve dès que les grèves ont de profonds mobiles de résistance. On le retrouve lorsqu'il n'existe pas d'alternative, lorsque la démocratie représentative, la nôtre, est inexistante ou trop manifestement responsable de la détresse vécue. La situation actuelle est donc propice à son développement. Aussi, l'exemple de la commune est important pour nous à trois titres. Tout d'abord, la commune est un ensemble social hétérogène et qui ne vit pas à l'abri d'une haute conception de son rôle qui ait été clairement constitué. Le communard n'est ni le citoyen, ni le prolétaire. C'est l'homme quelconque, ouvrier, petit boutiquier, artisan, profession libérale modeste, intellectuel précaire. Bref, c'est n'importe qui. Ensuite, parce qu'elle est assez hétérogène, la commune a besoin de la démocratie pour s'unifier et décider ensemble. Elle ne veut pas et ne peut pas se faire dictature de classe. La démocratie est pour elle une nécessité concrète, incontournable. Enfin, parce qu'en réalité, comme on le verra, cette pratique de la démocratie possède en elle-même une intelligence, qui est le résultat de l'expérience du groupe, une façon de surmonter l'inertie que j'évoquais, et d'opérer une unification de l'intérieur par le rassemblement lui-même. Voyons d'abord cet homme. Ni citoyen, ni prolétaire. Celui que nous sommes, ensemble hétérogène, mais ensemble tout de même, qui serait celui des petits irréguliers, tout le monde, et qui s'établirait contre le petit groupe de gouvernants et de possédants, dans la résolution inconsciente peut-être, et cependant logique, de le dissoudre. Il n'y a pas d'homme ordinaire, ou bien nous le sommes tous. Telle serait la condition de l'homme non séparé, de celui qui n'étant pas un membre de l'oligarchie, vit avec les autres dans une relative promiscuité. Cela peut sembler une détermination faible, il ne peut pas en être autrement. Nous vivons une époque où la lutte des classes, compte tenu de divers et profonds remaniements, prend la forme d'un antagonisme entre des classes dirigeantes et possédantes, dont le poids financier et la volatilité des avoirs ont changé de nature et de degré, et le reste de la population. Bien sûr, le reste de la population n'a pas vocation à se révolter dans sa totalité, mais tous sont affectés par le clivage, tous subissent son marquage inégalitaire. Car l'homme d'aujourd'hui, des salariés du grand discount jusqu'aux petits bourgeois eux-mêmes, dont les fils commencent péniblement un stage chez HSBC, éprouve régulièrement et de manière différenciée selon sa classe l'asymétrie économique, professionnelle, juridique, sociale, géographique, fiscale, administrative. Cela concerne aussi bien la recherche d'un appartement que l'entretien d'embauche, l'inscription universitaire ou l'entrée dans une boîte de nuit. Désormais, il y a toujours une entrée des artistes quelque part. Il y a toujours un arrangement avec le fisc lorsqu'on est un contribuable important. Il y a toujours un degré censitaire dans l'échelle du vivant où les évaluations s'arrêtent, comme si passé ce seuil, on n'avait plus besoin ni de contrôle, ni de concertation, qu'on vivait dans le fort intérieur de la gouvernance. J'emprunte l'expression asymétrie à Julian Assange, dont la cause et la méthode consistent à essayer de rompre ce qu'il appelle l'asymétrie de l'information, le secret, et dont on connaît universellement aujourd'hui les résultats comme les déboires. Dans un monde où le clivage s'aggrave, l'expérience de l'asymétrie est donc quasi quotidienne pour tout le monde, si bien que le sentiment d'inégalité pullule, la ségrégation des existences et des carrières réglant nos vies. Roland Barthes rapporte dans l'un de ses brillants articles, Saussure, le signe de la démocratie, que l'on trouvait naguère dans les lavabos de l'université de Genève, et cela s'y trouve peut-être encore aujourd'hui, qui sait, sur les deux portes où l'on s'attendrait à lire de délicieuses petites pancartes attestant de la différence des sexes et distribuant ainsi les clients à l'usage des cuvettes à droite et à gauche selon qu'ils soient XX ou XY, sur les deux portes donc était écrit ceci, sur l'une, messieurs, et sur l'autre, professeurs. Or, si l'on s'en tient au signifié, cette expression est dépourvue de sens, car les professeurs étaient naturellement des messieurs. Comme le montre Barthes, la distinction ne vaut que par la juxtaposition des termes. Les professeurs vont d'un côté et les messieurs, n'appartenant pas à ce corps vénérable, de l'autre. Maintenant, permutons les lettres de l'alphabet et partons en chercher quelques autres. Prenons un pinceau et changeons les termes sur les portes. Sur l'une, on écrit « homme ordinaire », mais qu'écrire sur l'autre ? Oligarque ? VIP, homme extraordinaire ou bien homme du passé? Quelques personnes se demanderont sans doute parfois si elles peuvent décemment pousser la porte sur laquelle on a écrit « oligarque ». Ici, la valeur, au sens de Saussure, ne résout rien. La question est autrement épineuse. Si je range l'impossible salut au magasin des accessoires, que reste-t-il? Tout un homme fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. Cette phrase célèbre, il n'est en somme pas un homme d'aujourd'hui qui ne doive la prendre à son compte. Ainsi, face à ces curieuses portes de toilette, ce n'est donc pas l'angoisse fiduciaire que l'on éprouve, angoisse portant sur la valeur des mots. C'est l'angoisse ontologique peut-être, plus sourde et plus profonde, qui nous ramène à notre propre valeur, qui est certaine, mais ne se fonde pas d'un autre ordre que celle d'autrui. Mais redevenons un peu sérieux. Il existe en français un mot qui correspond à mon propos peut-être mieux encore que cette expression d'homme ordinaire que j'ai faite mienne à cause de quelques pages d'histoire sur des paysans qui, au début du XVIe siècle, se soulevèrent, épisode que les Allemands appellent le soulèvement de l'homme ordinaire. Ce mot plus apte à rendre compte de cette multiplicité vivante, c'est le mot « gens », les gens. Bien sûr, il faut se dépouiller de ces anciennes connotations, encore souvent réactivées. Il faut débarrasser les gens des honnêtes gens. Escortons l'honnêteté jusqu'au seuil et congédions-la. Alors les gens redeviennent les simples passants de Krakauer, les bons hommes de Bruegel, les visages sur les portraits de Vincent van Gogh, l'homme de la rue, nos contemporains. Mais qu'est-ce que c'est les gens ? C'est le peuple à vue de nez, si l'on veut, c'est nous. Et je n'en ferai pas la généalogie savante à coups de pioche et benveniste, non, ce serait tout à fait déplacé. Les gens, c'est tout le monde et personne, masse confuse, informe, sans limite assignable, sans définition. Les gens, ça ne veut pas être un concept, ça ne veut pas être défini. Car le concept est du côté savant du langage, et les gens, c'est justement du côté courant. Et si l'on veut penser et agir avec cela, avec les gens, il importe d'en faire une idée et de ne pas trop l'éloigner du trottoir, de la rue, des passants, du hasard des rencontres. Cette expression « les gens » ne peut se dire que de plusieurs. Il serait incongru de déclarer « je suis les gens ». C'est un pluriel toujours et qui fait communauté à peine, au ras d'elle-même. Car nous sommes les gens. Et c'est nouveau cette disposition des hommes, cette multiplicité invariable et comme neutre. Ce n'est pas le peuple de 89, ce n'est pas le prolétaire de 17. Les gens, c'est une idée prise dans la prose des hommes. Ce sont les personnages de Joyce, petits employés, dockers, serveuses, étudiants. Ce n'est pas tout à fait le peuple, mais une chose plus simple, à l'écart des grands ressorts de la souveraineté. Pourtant, de nos jours, ce sont les gens qui parlent et agissent. Ce sont eux qui travaillent et chôment autour de nous. Ce sont donc ceux-là qui devraient motionner, disputer et délibérer de leurs affaires. Car désormais, ce ne sont plus vraiment des peuples qui se soulèvent, sauf d'un vocabulaire emprunté. La multiplicité vagante et mécontente, celle qui n'est pas au Parlement, celle à qui le mot de souveraineté même semble ne plus tout à fait convenir, c'est la communauté des gens. On les a vus apparaître, les gens, dans la littérature. Ils commencent peut-être leur carrière dans la poésie, c'est ce qu'on raconte, chez Baudelaire. Et puis très vite, ils ont été partout. Mais la photographie a fait pour eux bien plus que tous les arts. Elle nous les a livrés en groupe, en foule et par portrait. Les portraits d'Auguste Sander, ce sont les gens. Les portraits de Walker Evans, ce sont les gens. Les portraits de Dorothea Lange, ce sont les gens. Mais les gens sont avant tout le produit de la grande ville moderne, immense espace où l'anonymat défait la présence de Dieu, en un mystère plus grand peut-être, celui d'être seul au milieu des autres. Car alors, je deviens quelqu'un d'une manière nouvelle, et descendant le boulevard Magenta, je me trouve inéluctablement jeté dans le plus puissant sortilège. Ici, plus de famille, plus d'état même, plus d'exploits possibles. Je suis le passant de Baudelaire, le rêveur de Rilke, un personnage de Simenon. Je suis lié à tous, mais je suis défait de tout lien, seul et au milieu des autres, parmi eux, et personne ne me demande de compte, personne ne me connaît, mon fort intérieur vit à l'abri de l'inattention des autres. Je fais cette expérience-là, chaque jour. Je suis laïque. C'est depuis cet homme-là qu'une politique est aujourd'hui possible. Cet homme ordinaire, au pluriel, est la possibilité positive inscrite dans notre temps. Et sans doute dans son pli le plus irresponsable, là où les mains de l'histoire semblent vides. Car l'homme ordinaire, c'est l'homme du spectacle, le grand favori de la marchandise et de la servitude volontaire. Son aliénation est même plus ancienne. Il est le Pékin, la victime de l'opinion, le passager du sens commun, l'homme de la caverne de Platon. De nos jours, il n'est émancipé de rien que de ses rêves. On le dit d'une vacuité fantasmagorique, définitive et absolue. Il semblerait pourtant qu'à travers lui, l'homme n'ait pas dit son dernier mot. Si l'on veut bien nourrir encore un peu d'espoir et que s'accomplisse autre chose que le pire. Il n'y a plus de nature humaine, et bien soit, l'irréparable se produit. Les vieilles théologies sont enfin caduques, il ne reste plus que l'homme déraciné, résolument moderne si l'on veut, la forme de vie la plus séculière. Ne l'avait-on pas désiré ? Balthazar Gracian écrivait qu'un homme ne saurait en valoir plusieurs à lui tout seul. Cette vérité-là semblait un scandale en son siècle. Il a fallu des révolutions, l'éducation des masses et la publicité à grande échelle pour ôter toute étrangeté à cette idée. L'homme ordinaire est celui qui ne prend plus sa vessie pour une lanterne. J'ai annoncé comme deuxième leçon à tirer de la Commune de Paris qu'elle était assez hétérogène et que pour cette raison, elle avait eu besoin de la démocratie pour tenir et décider ensemble. Elle ne pouvait pas se faire dictature de classe. Elle ne disposait pas d'un parti organisé. La démocratie était pour elle une nécessité pratique, incontournable. De ce point de vue, nous sommes, je crois, dans un moment à certains égards comparable. Le parti, la classe universelle, le prolétariat, chargé d'émanciper toute l'humanité, nous ont laissé quartier libre. Le monothéisme politique est terminé. Nous aurons donc besoin de la démocratie, mais pas des grands lamas démocratiques, non. Cela, tout le monde sait pertinemment que nous n'en avons plus besoin. C'est qu'il gît un secret, peut-être, au fond de cette activité harassante et bavarde. Il se peut que la démocratie ait un contenu réel, un savoir. Il se peut que la démocratie ait une consistance, qu'il n'y ait en somme pas de véritable pratique de ses discours et de ses actes, sans qu'un souci se lève, celui de l'égalité. Je dirai plus tard ce qu'il peut advenir de l'ennui qu'elle suscite, de ses fatigues supposées. Pour le moment, j'en reste à ceci. L'hétérogénéité relative de nos intérêts d'hommes ordinaires conspire à la démocratie. Que nous le voulions ou non, il faut nous entendre. Il faut que nous fassions plus à fond l'expérience de son absence de grandeur, de sa médiocrité. Il faut que nous fassions plus à fond l'expérience de notre multiplicité amorphe, mais redoutable. Cette médiocrité jacassant, nous n'avons qu'elle. Une fois que le procès, appelé capital, c'est son nom de baptême, a désarticulé et vidé de leur contenu toutes les traditions, toutes les théologies, toutes les communautés étouffantes, comme le prédisaient Marx et Engels dans leur manifeste, eh bien, il nous reste, au-delà de l'éloquence, à découvrir si nous pouvons, nous, les hommes ordinaires, parler et décider ensemble. La gouvernance, son contrôle et son mode d'extraction de la plus-value si effarant, qu'il semble désormais créer de la richesse avec rien, dans un jeu qui se noue entre les valeurs de marché et les valeurs comptables, mais qui en réalité, comme toujours, opère la transsubstantiation du sang des uns en luxe pour les autres, tout cela s'oppose désormais à nous, avec une telle férocité froide et arrogante qu'il va bien falloir trouver un petit coin de table à tous où nous entendre. Ça vient d'ailleurs. On a vu ça en Argentine déjà. Les gens causer pendant des plombes de leurs soucis, réfléchir, proposer, s'engueuler, oui, on a vu ça dans bien des pays depuis. Oh, ça n'a pas toujours réussi. Mais ce qu'on peut constater partout, c'est la levée de masse hétérogène, rejetant les partis, dans le refus de tout programme, mais dont le fond est toujours démocratique, au sens d'une démocratie vivante, spontanée et sociale. Cela ressemble à ce que fut en son temps la Commune de Paris. On nous répète depuis très longtemps qu'il n'y a rien d'autre que la délégation du pouvoir, qu'il faut s'y résigner, qu'un exécutif fort évite bien des atermoiements. Mais l'intimidation réaliste de type juridique, dans un climat de méfiance généralisée, défaille. Quant à l'autre intimidation, celle de l'expérience, du type « nous avons déjà essayé et ça n'a pas marché », elle escamote la nouveauté. Heureusement que l'expérience des autres n'est pas comme une pile de linge qu'on conserverait dans l'armoire des idées. Elle est à la disposition du premier venu, mais n'a aucune autorité. Ainsi, au gré des luttes, les hommes refont l'expérience d'être ensemble, de motionner, de délibérer, de s'organiser, et ils la refont autrement. Alors, ce qui était prétendument impossible prend corps, on en fait l'expérience soi-même, cela laisse des traces. Chacune des luttes auxquelles nous assistons aujourd'hui coagule d'abord sur du local, sur des revendications particulières et, au gré des jours, s'universalise. Ces mouvements divers correspondent à une conjoncture inquiète plus générale. Tous rompent avec la religion du nouvel ordre mondial. Que ce soit contre les dictateurs, soutenus par les puissances occidentales, ou contre l'Europe des décideurs, la démocratie a parti liée avec des revendications politiques concernant le chômage, l'accès à l'éducation et de nombreuses formes d'inégalité. Partout, la revendication démocratique renoue avec le problème social. Tunisie, Libye, Égypte, Bahreïn, Yémen, Syrie, Grèce, Portugal, Espagne, Chypre, Turquie, Brésil. Ça fait tout de même beaucoup. Quelles que soient les grandes différences de structure, il existe une troublante synchronisation. Et puis tout cela s'inscrit dans un malaise général qu'on ne peut pas ignorer. Ce qu'on appelle la crise est le refrain anxieux sur lequel des revendications pullulent aux quatre coins du monde. Chaque révolte résonne sur fond de malaise mondial. Et les hommes qui se pressent sur toutes ces places aux quatre coins du monde ne sont rien d'autre qu'un mélange d'ouvriers, de chômeurs, de petits bourgeois, de commerçants, de fonctionnaires, des foules peu politisées en somme, des rassemblements d'hommes ordinaires. Celui qui ne dépasse pas le niveau moyen prétend littré, de conditions sociales modestes, communs. Au début, « ordinaire », ça voulait dire « ordre ». Ça vient d'ordo inis, qui signifiait « caste »,« grade », »,« classe sociale », »,« ligne ». Et puis, l'ordre, curieusement, par un tour de ruse de la langue et de ses innombrables locuteurs, devint « série disposée régulièrement, suite de choses identiques placées sur une même ligne ». On était passé des degrés et de la hiérarchie à la file de gens qui attendent gentiment leur tour. On était passé de la colonne à la queue et des infranchissables distinctions sociales aux pointillés. Tout allait mieux, sauf le mépris. Car cet homme qui se tient à la suite de l'autre, valeur semblable, différent mais égal, il serait commun, moyen. C'est la portion de soupe, la mesure d'avoine, le pauvre spectateur de la télévision, le fan de foot, bref, le quotidien, l'habituel, le vulgaire. Le pessimisme y voit l'aliénation majeure, l'homme indifférent, plat et mou du spectacle, la fin des rêves, presque rien. Mais le pessimisme, on le sait, réifie toujours l'objet de sa pensée. Aujourd'hui, il fige notre conjoncture politique en un horizon indépassable. Or, comme l'écrivait Mario Tronti, là où il y a le plus grand danger, il y a aussi ce qui sauve. Cela s'appelle l'avenir. Il y en a toujours eu. Nous ne sommes pas plus pauvres que les autres sur ce point. Tout dépend de ce qu'on désire, de ce qu'on souhaite et de ce qu'on fera. À nous de ne pas cristalliser dans l'instant déceptif, préférant éprouver le noyau de force vive. Mais quel est-il ? On nous le répète, la promesse serait trahie. Celle de la République, dont l'égalité formelle était garante de notre participation politique, tandis que la puissance publique devait nous prémunir des excès du marché. Celle du socialisme, qui devait faire advenir un homme nouveau et l'égalité réelle. Ces projets se sont incarnés dans des hommes et dans des périodes de lutte, puis de pouvoir. Et chacune de ces séquences connues, ses guides, ses règnes. Or, que disent les soulèvements que nous avons eus sous les yeux récemment, ceux de Tunisie, de Libye, d'Égypte, de Syrie, Occupy Wall Street, Los Indignados, et aujourd'hui ceux du Brésil ou de la Turquie? Tous répètent sur un point au moins la même chose. Nous ne voulons et nous n'avons pas de chef. La police est bien emmerdée. Son métier est de repérer des responsables, de désigner des meneurs, puis de les incarcérer pour en finir. Elle est à présent aussi démunie que l'armée française face aux communistes immergés dans le peuple jaune. Comme l'armée, la police y voit une technique de combat. Elle les trouvera, les chefs qu'on dissimule, et s'il n'y en a pas, ou qu'elle ne parvient pas à les trouver, elle en inventera. Et puis, il y a toujours un mariole pour s'autoproclamer, ça fera bien l'affaire. Mais non, les chefs manquent. Le désir a structure de manque à ce qu'on dit. Il faut croire que le désir politique a changé. C'est qu'une forme de défiance nouvelle rend l'acceptation d'un chef peu sûre. Tout leader est corruptible, quel qu'il soit. L'intégrité individuelle n'assure plus la transparence de la procédure. Quant à la puissance de pensée et d'action d'un seul, dans un monde où nos politiciens ne savent même plus prendre de décisions puisque l'expertise commande, et où ils ne sont même pas capables d'écrire leur propre discours, cette puissance de penser et d'agir d'un seul homme apparaît soudain comme n'étant pas à l'échelle des problèmes. Alors, la figure héroïque se dissout dans la masse. Ainsi, la démocratie, dans son expérience concrète, s'annonce plausible, souhaitable, irrémédiable même. Bien sûr, ça se présente d'abord sous la forme de l'impuissance, d'une revendication politique de modeste ampleur, formulant ses requêtes dans un registre qui semble suranné. La fin d'un dictateur, la liberté de la presse, le contrôle de la finance, un peu d'écologie, de quoi bouffer et vivre. Du coup, on n'entend pas la charge nouvelle qu'il y a dans cette absence. Pas de chef. Cela sonne pourtant bien. C'est peut-être là, sous une forme feutrée, l'une des meilleures nouvelles que nous puissions espérer, la réalisation profonde de la promesse, c'est l'abolition du destin. Je récapitule donc. La démocratie est la forme séculière du pouvoir, elle serait ennuyeuse, premier point. L'homme ordinaire est le sujet politique de notre temps. Il apparaît en une saison d'évanescence générale des formes, et il cale le commencement balbutiant de ses discours sur la vieille revendication de démocratie directe. Il constitue une classe hétérogène, une multiplicité à détermination faible. Il a mauvaise réputation. On le dit, le plus servile. Cette servilité cache autre chose qu'elle-même, son contraire. L'homme ordinaire est émancipé de ses rêves. Ça peut paraître triste, puisque chacun voudrait, nous dit-on, réaliser ses rêves. Mais il s'agit d'autres rêves. Il est émancipé de ses grands rêves politiques. Ah, mais alors c'est fichu, pas du tout. Deuxième point. Enfin, sur fond de malaise général, la crise, voici qu'il se réveille. Lorsqu'on se penche sur ses actions, on y retrouve trois choses. La démocratie spontanée, l'absence de chef, le rejet des partis. Troisième point, avançons. À présent, si vous le voulez bien, regardons ensemble un film. C'est un film de Patricio Guzmán, ce qu'on appelle un documentaire, c'est-à-dire un film dont la vérité s'établit du rapport au réel. Ça s'appelle « La bataille du Chili ». Le film témoigne des trois années de la présidence de Salvador Allende. Ces trois années forment un segment ardent et bref de cette « ligne brisée des utopies » qu'évoquait Sophie Vanisch ici, il y a quelques jours. Durant ces trois années, le gouvernement d'Allende est en butte à de terribles assauts. Les États-Unis boycottent les productions chiliennes et financent les mouvements d'opposition pour que le régime tombe. Un puissant mouvement populaire voit alors le jour et se développe en marge de la vie gouvernementale, à la fois très favorable à Allende, mais qui, afin de répondre aux difficultés multiples des circonstances, invente ses propres solutions, de plus en plus autonomes de la politique de l'État. C'est ce mouvement populaire qui m'intéresse. Une fois passées les élections parlementaires de 1972, le boycott américain et les manœuvres de l'opposition ont pour but de désorganiser le ravitaillement de la population et d'épuiser les réserves. L'organisation des ouvriers permet de surmonter partiellement les difficultés. Ils organisent des comités de ravitaillement et un contrôle des prix. Pendant la grève des transports privés, destiné à asphyxier le pays, les ouvriers tentent de pallier le manque d'autobus et de cars grâce aux camions des usines qu'ils réquisitionnent. Le départ d'une partie du patronat et la grève des cadres aboutissent à de nombreuses occupations d'usines par les ouvriers qui prennent ainsi possession de leur outil de travail. Ils parviennent à maintenir une production satisfaisante. Un système d'échange de ressources est mis en place entre les industries, appelé les cordons industriels. Chaque cordon coordonne les tâches des travailleurs d'une même zone. Enfin, en réponse à la grève des commerçants, les usines vendent directement leur production à la population en l'acheminant dans les quartiers. Comme quoi parfois les cadres et les commerçants font grève. Après la première tentative de putsch, au matin du 29 juin 1973, dans tout le pays, les travailleurs prennent aussitôt le contrôle des usines, entreprises, mines et centres agricoles, spontanément. Ils comprennent alors qu'il leur faut renforcer les cordons industriels, les conseils communaux, les associations de quartier, tous les organismes de la communauté, c'est-à-dire toutes les nouvelles formes d'organisation qu'ils ont inventées, les seuls lieux de véritable démocratie. Je vous raconte tout ça simplement pour vous faire sentir le climat et la nature des événements qui se sont produits à l'époque. Et puis, c'est une belle et terrible histoire. On aime les histoires. C'est au moins aussi profond que la pensée. À un moment du film, il y a cette ouvrière devant sa machine à coudre, qui, lorsqu'on lui demande si les cordons industriels sont dangereux pour la démocratie, répond « J'ai confiance en l'intelligence du peuple. Un peuple organisé est intelligent. En quoi un peuple qui s'organise peut-il faire peur ?» C'est une réplique digne des grands conventionnels. On la doit à une couturière. À cette étape de la révolution chilienne, l'appareil d'État fut soudain débordé par la réalité. Les usines étaient le plus souvent occupées sans base juridique. Il existait pourtant une loi permettant ces expropriations depuis Allende, mais les conditions étaient rarement réunies. Ce qu'on appela alors spontanément le pouvoir populaire se mit à aller au-delà de l'action du gouvernement qui était entravée par la droite. Elle tenait le Sénat. Apparurent alors les commandos communaux, composés de tous les habitants d'un quartier, étudiants, ouvriers, ménagères, paysans. Ils s'occupaient des problèmes d'hygiène, de vigilance et de ravitaillement. C'est encore une création spontanée du peuple chilien. Et comme chacune de ces créations, les commandos communaux se constituent à partir de tâches concrètes. Dans le film de Guzmán, on assiste comme en direct à l'une de ces prises de décision où un ouvrier propose la mise en place d'une coopérative. C'est assez bouleversant de voir ses visages attentifs, ses yeux vifs, toute une attitude des corps élaguée de la gêne et emportée par une sorte de confiance qui est contagieuse. C'est sûrement ce que Sartre appelle l'amitié, dans cet entretien inédit de juin 1978, publié récemment. À certains moments de la vie sociale, il se produit une sorte d'amitié chaude. La politique envahit la société. Dans ces moments, il n'y a pas de chef. Le mouvement social, explique Sartre, se fait de lui-même, entraîné dans cette direction par l'ensemble des pensées de ceux qui le portent. À l'heure d'aujourd'hui, où les grands discours échouent à fédérer les hommes, après que la démocratie formelle, la nôtre, a fait son travail de désensorcellement, bien malgré elle peut-être, mais peu importe, l'absence de chef devient pour nous une revendication plus intime encore, plus profondément liée au type de multiplicité que nous formons. Dehors est le lieu qui nous prouve, selon l'expression de Marc Blanchet. Ainsi, durant tout le film de Guzmán, on voit les gens défilant avec une sorte de fraîcheur de commencement du monde, soudain débarrassés des oripeaux et des craintes de la domination, limpides dans leurs discours, posant les problèmes, discutant de manière concrète et sans périphrase des difficultés pour les résoudre. Et l'on ne peut pas ne pas éprouver conjointement une émotion politique et poétique. Le film est un témoignage sidérant de la révolution en marche. Guzmán et ses caméramen filment l'histoire, celle dont Allende disait qu'elle était l'œuvre des peuples. Et en effet, il en a inventé des solutions, le peuple chilien. En peu de temps, la démocratie est devenue bien moins ennuyeuse, elle est devenue vitale. Le pouvoir populaire inventa de toutes pièces une démocratie spontanée, vivante. Le film nous rappelle qu'un autre usage du monde est possible et que, si les grands lamas démocratiques sont ennuyeux, si les réunions syndicales sont rasoirs, si les assemblées étudiantes sont laborieuses, il existe aussi une passion démocratique, une véritable effervescence. Apparemment, de nos jours, d'autres peuples l'auraient déjà redécouverte au préjudice de leurs dirigeants. De l'organisation démocratique des usines, du ravitaillement ou du transport, les Chiliens en viennent progressivement à envisager une prise de pouvoir et la mise en place d'une société vraiment égalitaire. La liberté de parole, l'habitude de motionner, d'organiser, de décider, aboutit naturellement à l'idée d'un renversement des formes de délégation du pouvoir, exécutive, parlementaire, judiciaire, administrative, à l'abolition de toute structure hiérarchique. Ils ont désormais l'habitude de s'en passer et ils savent que les sujets supposés savoir de la hiérarchie qui ont abandonné leur poste pour désorganiser la production, les cadres, les ingénieurs, les fonctionnaires, ne leur sont en réalité pas indispensables, puisque les travailleurs sont parvenus à faire fonctionner les usines, les mines et les exploitations agricoles sans eux. L'expérience a produit une analyse de la réalité. Ce que l'on voit dans le film de Guzman, et qui est un prodigieux témoignage, sans doute unique en son genre, puisqu'on y assiste à la levée d'une conscience populaire et à son organisation spontanée, ce que l'on voit à l'œuvre dans le film, c'est une intelligence. La démocratie, qui était ennuyeuse, devient ici une chose passionnante pour tout le monde. Le premier point que je marquais, et qui constituait un obstacle, la brutalité des circonstances se charge de le lever. À ce moment où les nécessités deviennent impérieuses et où l'on se réunit pour protéger son existence, au contact des autres et dans l'action, chacun retrouve son unité fonctionnelle. Il faut répondre à une situation, c'est-à-dire à des intérêts communs, à des rapports de force. Le versant inerte du groupe, dispersé, négligent, l'ennui dont je parlais avec un peu d'ironie tout à l'heure, disparaissent. Guzman filme, il nous montre, et il existe une vertu des images. Elle nous restitue une ambiance avec une force inimitable. La vérité y apparaît intrinsèque à son signe. Ainsi, dans la bataille du Chili, on sent qu'il se passe quelque chose. On le voit, on l'entend. Comme dans cette scène hallucinante, où l'on est témoin de ce qu'est une conscience, où l'on voit émerger une intelligence collective. Les ouvriers et les paysans viennent de se saisir de terrains mal exploités. Durant une réunion, un ouvrier interroge un fonctionnaire et lui demande de quels moyens réels il dispose si les tribunaux ordonnent des mesures conservatoires et bloquent ainsi légalement l'expropriation. Le fonctionnaire explique que les patrons peuvent en effet payer des avocats et faire traîner indéfiniment grâce à des tours de procédure. Il est important de noter que si l'ouvrier parle un langage clair, le fonctionnaire parle une langue empruntée, anxieuse, dont j'ai résumé le propos. On voit clairement dans le film comment la position même du fonctionnaire l'empêche de tenir un langage intelligible. Il invoque la solidarité avec le gouvernement socialiste et les difficultés de la conjoncture, mais cela est sans rapport direct avec la question. Il parle la langue de bois. Il est également frappant de voir pendant ce temps les visages des ouvriers et des paysans concentrés, attentifs, sérieux. Aussitôt que le fonctionnaire a terminé de répondre, le représentant des ouvriers conclut abruptement. En conséquence, ce qu'on doit faire, c'est occuper tous les domaines expropriables avant la fin du mois. Puis, il lève la séance. On appelle ça un passage brutal de l'inertie au savoir. La démocratie directe peut donc passer du stade informe et hésitant, qui fit parfois, selon Lisa Garay, la faiblesse de la commune, à une intelligence capable de décider en épousant les articulations de la réalité avec toute la fermeté que les circonstances requièrent. Je suppose que dans les rues d'Athènes, dans celles de Lisbonne, de Madrid, du Caire, de Tunis et d'Istanbul, il se passe en ce moment des choses de ce genre, de profondes expériences de groupe, de ces amitiés chaudes dont parle Sartre. Donc, ce que nous apprend Guzman, c'est que la démocratie tumultuaire, spontanée, n'est en fait pas ennuyeuse, elle a même l'air d'être passionnante. Il y a de la beauté dans ces visages, en train d'écouter et de prendre la parole. Personne ne commande, tout le monde est là. Il nous apprend une deuxième chose, Guzman, c'est que ce processus fabrique une intelligence. On nous l'avait bien dit, naguère, mais on n'y croyait plus. Et je ne vois pas pourquoi cette intelligence du Chili serait une exception ou une chance qui serait passée. Je pense même le contraire. Je pense que notre temps est propice à son retour, à sa réincarnation. On la retrouve d'ailleurs chaque fois que les processus sociaux sont confisqués, entravés, et que les gens se saisissent eux-mêmes de leurs affaires. C'est le côté 14 juillet de la situation. Rossignol, dans ses mémoires, raconte que, 3 jours avant, il n'avait pas la moindre idée révolutionnaire, que des cris, des slogans dans la rue ont attiré son attention et que le 14 juillet, il était devant la Bastille des plus décidés. La grande différence entre les Chiliens et nous, c'est que les Chiliens reconnurent très vite l'avenir qu'on leur préparait, le coup d'État et la junte. Tandis que notre avenir à nous est encore incertain. Quel orage, les grondements du tonnerre que nous entendons tous, nous prépare-t-il ? Nous l'ignorons. Cela structure notre rapport au monde, et cette incertitude donne pour une part sa forme à notre inquiétude et déterminera nos actions. Du reste, cette incertitude consonne avec les autres points que je rappelle. Premièrement, pas de chef. Deuxièmement, une évanescence générale des formes politiques. Troisièmement, une classe hétérogène, multiplicité à détermination faible. Quatrièmement, le rejet des partis et des grands discours. Tout ça pourrait a priori paraître gris. En réalité, ça signifie plutôt des gens méfiants à l'égard des hiérarchies, méfiants à l'égard des partis, mais capables de se lier aux autres. Quant à l'incertitude où nous sommes de notre avenir, elle ouvre les perspectives, elle rend nécessaire une expression libre des positions. Ce n'est donc pas si mal comme point de départ. Cette configuration est propice à plusieurs choses. Elle implique un dialogue entre les éléments hétérogènes formant le groupe. La démocratie est alors l'unique modalité possible de débat et de décision. Il faut donc la réinventer. Or, la démocratie spontanée, dont chaque nouvelle expérience invente la sienne propre, fait naître une intelligence. C'est une trajectoire empirique. Ce temps où l'on parle, où l'on s'exprime, où les décisions s'appliquent, où l'on s'organise, fabrique son propre savoir, une connaissance. Il faut imaginer ce que dut représenter pour les Chiliens l'invention et la mise en place des paniers de ravitaillement, des commandos communaux, des cordons industriels, qui furent autant de formes d'organisation originales. Le temps est orageux. Tous les indices concordent. Même les experts semblent soudain douter de leur savoir. Il est à gager que les rapports sociaux vont sans doute se durcir. J'ai voulu faire saillir quelques lignes de notre situation, susceptible de nous y orienter si notre moment est bien celui de l'urgence. Nous assistons, sur fond d'angoisse planétaire, à des soulèvements auxquels leur fréquence donne l'allure d'une nécessité. On dirait qu'une idée est en train de faire le tour du monde. Partout, dès qu'il entre en action, l'homme ordinaire recourt à une démocratie spontanée pour organiser la prise de parole et de décision. Cet usage de la démocratie est conforme au penchant égalitaire dont je prétends que l'immense majorité des populations a fait aujourd'hui l'une des bases de son catéchisme. Les hommes sont égaux. Malgré les jouissances de l'image et de la marchandise, et peut-être même un peu grâce à elle, l'égalité fait donc son chemin. La leçon bourgeoise, que l'on croyait inoffensive et destinée aux seuls possédants, s'est inoculé en l'homme au-delà de toute espérance. Voici la bonne nouvelle. Désormais, dans un environnement politique décomposé, je crois qu'on peut faire fond sur cette idée. Chaque homme sait à présent qu'il en vaut n'importe quel autre. Merci.